Patrimoinez-vous.
Patrimoinez-vous.
Et si le patrimoine se vivait juste en bas de chez vous?
Un voyage patrimonial à portée d'oreille.
Histoire d'hier, initiative d'aujourd'hui, voix passionnée du territoire.
Un voyage au cœur du patrimoine drômois.
8h,
9h,
sur Radio Saint-Ferréol.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Patrimoinez-vous sur Radio Saint-Ferréol, l'émission qui vous invite à voyager dans le temps à la découverte du patrimoine local en Drôme-Ardèche et au-delà. Depuis plusieurs émissions déjà, nous parcourons les grandes périodes de l'histoire qui ont façonné nos paysages, nos villages et notre identité. Nous avons commencé par les premiers peuplements préhistoriques avec les grottes ornées, les mégalithes et les traces laissées par les premiers habitants de nos territoires. Puis nous avons exploré dans une émission suivante l'Antiquité lorsque les Romains et Gaulois aménageaient nos routes, nos villes, nos ponts et monuments dont certains sont encore visibles aujourd'hui. Lors de notre précédente émission, nous nous sommes intéressés au Moyen-Âge, cette longue période de 1000 ans souvent associée au château fort, aux chevaliers et au village perché, des émissions que je vous invite à réécouter dès maintenant en podcast sur le site de Radio Saint-Ferréol. Aujourd'hui, cette quatrième émission continue ce voyage dans le temps et nous poursuivons avec tout à fait chronologiquement l'époque suivante, l'époque moderne, une période parfois moins connue du grand public mais pourtant essentielle pour comprendre là aussi le patrimoine que nous côtoyons chaque jour en Drôme, en Ardèche mais aussi au-delà. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir ce qui caractérise à cette époque, explorer quelques lieux emblématiques de notre territoire, évoquer pourquoi pas sa musique, rencontrer même une spécialiste de cette période et vous proposer plusieurs idées de sorties et de visites en lien avec cette thématique. Alors installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte du patrimoine de l'époque moderne. Vous écoutez Patrimoinez-vous.
Patrimoinez-vous.
Et j'aimerais quand même commencer, comme pour chaque émission, à parler de quelques idées reçues qu'ont laissé cette période de l'histoire, comme je vous l'ai dit, assez méconnue. Lorsque l'on entend époque moderne, beaucoup imaginent spontanément une période beaucoup plus proche de nous, alors que pourtant les historiens décrivent l'époque moderne comme une période qui s'étend de 1492, soit la découverte de l'Amérique, parfois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard, à 1789 et la Révolution française. Autre idée reçue, on pense souvent que cette période est souvent, et surtout celle des rois et des grands personnages. Alors bien sûr, François Ier, Henri IV, Louis XIV ont tous joué un rôle important dans cette histoire de l'époque moderne. Mais cette époque, c'est aussi celle des paysans, des artisans, des marchands, des protestants, des catholiques, des voyageurs et de tous ceux qui vivent les profondes transformations de la société de cette époque-là. Parce que oui, comme pour le Moyen-Âge, là aussi beaucoup de conflits religieux, territoriaux ont eu lieu et ont marqué durablement l'histoire. Enfin, on imagine parfois que ce patrimoine moderne se résume au château. Ben oui, on pense au roi, donc on pense forcément au château. Et pourtant, vous allez le voir, ce temps nous a laissé les temples protestants, les hôtels particuliers, des manufactures, des places publiques, des jardins, des moulins à vent, des fontaines et même certaines routes que nous empruntons encore aujourd'hui. Alors l'époque moderne est partout autour de nous, parfois discrète mais omniprésente. Alors pour mieux la comprendre, je vous propose de faire un petit point historique chronologique de cette période pour nous resituer un petit peu dans notre contexte. Donc, rappelez-vous, nous quittions l'émission précédente à la découverte de la musique, à la découverte de l'Amérique en 1492. Eh bien, pour certains historiens, c'est cette date qui marque officiellement le début de cette époque moderne, celle de ce voyage de Christophe Colomb vers l'Amérique et donc de l'ouverture de l'Europe vers un monde beaucoup plus vaste que les contemporains ne le pensaient jusque-là. Alors c'est donc une période fortement marquée par les échanges, par l'ouverture, par ce qu'on appelait aussi la première mondialisation. Le XVIe siècle, c'est bien sûr aussi celui qui dénote complètement avec le Moyen-Âge, c'est le siècle de la Renaissance, là où les scientifiques vont s'attacher à remettre au centre les arts, les sciences, l'architecture, avec un formidable essor. Alors, je vous le rappelle, rappelez-vous, l'émission précédente, on parlait des idées reçues du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'est pas cette période sombre comme on l'a beaucoup imaginé. La Renaissance a beaucoup terni quand même cette période médiévale. Mais bon, il faut le reconnaître, la Renaissance a laissé également beaucoup de patrimoine architectural encore visible aujourd'hui. Les idées circulent aussi plus rapidement grâce à l'imprimerie qui est inventée quelques décennies plus tôt. Parfois, l'époque moderne commence à l'invention de l'imprimerie dans les années 1470. Cette période est également marquée, je vous le disais, par les guerres de religion qui opposent catholiques et protestants. Tantôt la France est favorable au protestantisme, Henri IV va être totalement favorable en proposant un édit qui concilie tout le monde. On crée en France un petit peu partout des places de sûreté, notamment dans le Midi, donc les protestants peuvent vivre totalement normalement, jusqu'à l'époque Louis XIV où là la révocation de l'édit de Nantes vient balayer cette sûreté dans les années 1680. 1790, les protestants ne sont plus les bienvenus, sont même massacrés. Des massacres qui rappellent largement ceux de la Saint-Barthélemy au XVIe siècle, bien sûr. Et nos territoires en Drôme et en Ardèche ont été particulièrement concernés par ces épisodes-ci. De nombreuses villes et villages gardent encore aujourd'hui les traces de ce conflit et la mémoire est encore vive sur ces questions-là. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la monarchie française elle se renforce progressivement autour d'un pouvoir royal, d'un pouvoir qui se veut de plus en plus central, de plus en plus exclusif. Les rois absolus, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et puis la progressive descente de cette monarchie. C'est dans ce même temps que le commerce poursuit son essor, commencé dès l'Antiquité, dès le Moyen-Âge. Les villes s'embellissent, de nombreux édifices sont construits ou transformés. Et enfin, cette période est souvent clôturée par l'année 1789 qui marque un tournant majeur dans l'histoire de France avec la Révolution française et le début de l'époque contemporaine sur laquelle nous reviendrons bien sûr dans la prochaine émission. Et donc pour bien comprendre cette période, nous allons revenir dans quelques instants avec notre archéologue Émilie Comestrinette qui nous accompagne déjà depuis plusieurs émissions pour parler un petit peu époque moderne, archéologie moderne, qu'est-ce que c'est de parler d'un paysage moderne, du patrimoine moderne. On va revenir avec elle dans quelques instants sur cette question-là. Je vous donnerai bien sûr dans un instant un panorama de plusieurs sites, monuments à voir aujourd'hui. L'un des plus célèbres peut-être en Drôme est le château de Grignan qui marque aujourd'hui en plus l'année 2026, c'est l'année Sévigné. On fête une année anniversaire assez importante, donc on y reviendra dans quelques instants. Et tout ça c'était après une petite pause musicale avant de parler notamment musique de l'époque moderne, parler baroque, parler classique. Je vous propose tout ça juste après Colorblind. Voici Diplo sur Radio Saint-Ferrol. Vous écoutez Patrimoine et vous, consacré au patrimoine moderne de la Drôme, de l'Ardèche. Restez là, on revient dans un instant. I've been so colorblind. And I've been so colorblind. Yeah. Hey, trips to the mall, I just tripped in the fall. I think I might really be the one after all. Yeah, the one to rule them all, I'm the chosen one, the savior. But all these triple six, yeah, make it look like I was up to no good. At least that's what my mama said. Yeah, now I'm the one giving mama bread. Done with the pain, I've been so heartless. I've been so colorblind. And I've been so colorblind. So all my girls need diamond ring. Yeah, yo, text that I sent that you never ever read. Got me feeling like you never ever ever really cared. Yeah, but that's okay though, I hope you feel okay though. They used to call me Dago, my favorite drink is Faygo. I've been so. Thank you.
Vous écoutez
Patrimoinez-vous.
Patrimoinez-vous.
Un voyage patrimonial à portée d'oreille.
Sur Radio Saint-Ferréol.
Et si le son que nous venons d'entendre est totalement contemporain, hein, a été réalisé il y a quelques années seulement, eh bien l'époque moderne, comme toutes les autres époques que nous avons balayées jusque-là, sont aussi marquées durablement par la musique. Et donc c'est l'heure de la chronique musicale.
Mais on écoutait quoi à l'époque?
Parce que oui, la musique là aussi occupe encore une place essentielle dans la société, dans différentes franges de la société, que ce soit les chants populaires, les chants des cours royales. À la Renaissance, déjà les compositeurs développent la polyphonie, cet art de superposer plusieurs voix indépendantes. Les cours princières et royales deviennent de grands centres de création musicale, et parmi les compositeurs célèbres, on peut bien sûr citer Josquin des Prés ou encore Claudio Monteverdi. Puis vient l'époque baroque entre les 17e et le début du 18e siècle. Là, la musique devient beaucoup plus expressive, plus théâtrale, accompagne les différents chants des arts vivants. C'est la naissance notamment de l'opéra, le développement de nouveaux instruments, et c'est ainsi qu'apparaissent les noms de Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Johann Sébastien Bach résonnent encore aujourd'hui dans les salles du concert du monde entier. Parce que oui, cette musique accompagne aussi bien les cérémonies religieuses que les fêtes, les bals, les mariages, les chasses royales ou même les batailles. À la cour des rois de France, elle est omniprésente du matin jusqu'au soir. Les souverains eux-mêmes sont souvent musiciens d'ailleurs. Plusieurs princes et princesses apprennent à jouer du luth, de la guitare, de l'épinette ou encore de l'orgue. Chanter et pratiquer la musique fait alors partie intégrante de l'éducation des élites, notamment féminines. Ce qui caractérise surtout la Renaissance, c'est le développement spectaculaire, je vous l'ai dit, de la polyphonie. Derrière ce mot un peu savant se cache une idée toute simple, hein. Plusieurs voix chantent simultanément des mélodies différentes qui se répondent et s'entremêlent. Cette richesse sonore donne alors naissance à des œuvres d'une grande finesse. Et je vous le disais, une première figure, c'est Josquin des Prés, considéré comme l'un des plus grands musiciens de la Renaissance européenne. Vous l'entendez derrière moi avec son Ave Maria. Et bien sûr, la diffusion de cette musique, elle est grandement favorisée par une véritable révolution technique qui est l'imprimerie musicale. En effet, dès le début du XVIe siècle, des éditeurs italiens puis français parviennent à imprimer des partitions en grand nombre. Pour la première fois, les œuvres peuvent circuler largement à travers l'Europe et donc s'échanger. Cette période est également marquée par les guerres de religion, les catholiques comme les protestants comprennent très vite l'importance du chant, même pour transmettre leurs croyances, pour défendre leurs idées. Du côté protestant, Martin Luther puis Jean Calvin encouragent le chant religieux en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans une langue comprise par tous. Et c'est ainsi que les célèbres psaumes huguenots deviennent alors un élément central du culte réformé. Et cette histoire résonne particulièrement en Ardèche et dans la vallée du Rhône, terre fortement marquée par la présence des protestants dès le XVIe siècle. Prenons l'exemple de Pierre et Marie Durand, cette famille Durand qui vit à Pranles, juste au nord de Privas, et donc qui est absolument happée par la foi protestante. Marie Durand se verra notamment emprisonnée dans la tour de Constance, aujourd'hui Aigues-Mortes, dans ces tours et remparts qui sont devenus prisons protestantes pendant près de 40 ans. Elle est enfermée dans une tour très hostile, où il fait froid, où les courants d'air sont assez fréquents, où il y a peu de meubles, où les prisonnières sont sous-nourries, bénéficient de peu d'eau. Pour survivre pendant 40 ans, elle refusera de renier sa foi protestante et donc sera emprisonnée dans cette tour. Elle ne sera libérée qu'à la fin du XVIIIe siècle par le gouverneur du lendemain qui venait visiter la prison, faire le tour et se rendit compte des conditions absolument déplorables de ces prisonnières protestantes. C'est ainsi que Marie Durand est finalement libérée de prison pour terminer sa vie et donc continuer sa foi. Donc voilà. Une prisonnière qui, nous pouvons le penser, chantait elle-même des psaumes dans cette prison d'Aigues-Mortes réservée aux protestants, comme dans beaucoup d'autres prisons. Et ça me fait penser à ces psaumes que vous entendez derrière moi. Hein. Les psaumes huguenots, il en existe de nombreux qui ont été prolongés par la tradition orale, mais aussi écrits, et donc ils nous sont parvenus jusqu'ici. Et j'en profite une petite parenthèse pour parler de patrimoine protestant avec le chemin des Huguenots qui parcourt notre propre département. La Drôme est parcourue par ce chemin, elle est au même titre que le chemin Compostelle, un chemin de pèlerinage qui passe par Poitlaval, à Poitlaval où vous pouvez retrouver le musée du protestantisme, donc encore une histoire qui a fortement marqué et laissé des traces durables dans le paysage, dont ces nombreux temples qui sont construits durant cette époque moderne. Et la musique, bien sûr, ne se limite pas à la religion, à la cour. Les bals rythment la vie mondaine. Sous les derniers Valois, on organise parfois plusieurs bals par semaine. Les musiciens interprètent alors des pavanes, des gaillardes ou encore des voltes, des danses qui permettent à la noblesse d'afficher son élégance et son rang social. Le violon, lui, devient peu à peu l'instrument vedette de ces festivités. La musique accompagne également les grandes cérémonies royales, les entrées solennelles dans les villes, les mariages princiers où les sacres trompettes, hautbois, tambours et chanteurs participent à la mise en scène du pouvoir royal. À la fin du XVIe siècle apparaît même une innovation majeure, les premiers spectacles qui mêlent donc théâtre, danse et musique, et donc comme je vous le disais, ils annoncent la naissance de l'opéra. Et l'une des figures les plus célèbres de cette révolution est le personnage mythologique d'Orphée. Son histoire inspire les premiers grands opéras de l'histoire, notamment l'Orfeo de Claudio Monteverdi, créé en 1607, et cette œuvre marque la transition entre la Renaissance et l'époque baroque. Et oui, parce que le XVIIe siècle ouvre ensuite la grande période baroque, la musique devient plus spectaculaire encore, plus expressive, les compositeurs recherchent l'émotion, les contrastes, la virtuosité. C'est l'époque de Lully à la cour de Louis XIV, puis de Vivaldi en Italie, de Bach en Allemagne ou encore de Rameau en France. Leur héritage est immense et continue d'influencer les musiciens du monde entier aujourd'hui. Enfin, ce qui est particulièrement remarquable, c'est que beaucoup des instruments de la Renaissance ont disparu avant d'être redécouverts au XXe siècle. Bien, grâce au travail des chercheurs, des musicologues et des interprètes, il est désormais possible d'entendre à nouveau le son de luth, de la viole de gambe, du cornet à bouquin ou de l'épinette comme pouvaient les entendre les habitants de l'époque moderne. La musique nous offre ainsi une formidable machine à remonter le temps. En quelques notes seulement, elle nous transporte dans les églises, les palais, les places publiques et les jardins de la Renaissance, tout comme le grand siècle, une musique qui est bien sûr une part entière de notre patrimoine immatériel et qui continue aujourd'hui de nous transporter dans le temps. Et une musique qui a sûrement résonné, qui continue encore aujourd'hui à résonner grâce aux événements qui s'y tiennent, la parenthèse patrimoniale s'intéresse bien sûr au château de Grignan, parce que s'il fallait choisir un monument emblématique de cette époque moderne en Drôme ou encore en Ardèche, le château de Grignan figurait sans doute parmi les premiers. Perché sur son promontoire au cœur de la Drôme provençale, il domine aujourd'hui le paysage, et il le domine depuis déjà plusieurs siècles. À l'origine forteresse médiévale, il est profondément transformé à la Renaissance, puis au XVIIe et XVIIIe siècle, ce qui nous laisse cette magnifique façade Renaissance qu'il est encore possible d'observer aujourd'hui, ses nombreuses pièces. Le château devient alors une résidence prestigieuse, symbole du pouvoir de la famille des Adhémar, et son histoire est bien sûr très très liée à Madame de Sévigné. La célèbre épistolière y séjourne régulièrement auprès de sa fille, Françoise Marguerite de Grignan. Les lettres qu'elle rédige depuis ou à destination de Grignan constitue aujourd'hui un témoignage exceptionnel sur la société du grand siècle. Le château que l'on visite aujourd'hui permet de découvrir les appartements d'apparat, les terrasses monumentales et les décors inspirés de la Renaissance italienne, et il illustre parfaitement bien l'évolution de l'architecture entre le Moyen-Âge, c'est-à-dire une architecture purement défensive comme nous le voyons dans le précédent épisode, à cette volonté de décorer, de décor et de l'époque moderne. En 2026, c'est une année anniversaire, je vous le disais, en fait, les 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné. Et à cette occasion, le département de la Drôme, qui est propriétaire du château, et le château ont mené une série d'événements à destination, enfin, dans le cadre de ce programme des 400 ans d'anniversaire, avec tout au long de l'année différents temps forts. La plupart sont déjà passés, des séminaires, et surtout du 30 avril au 3 mai se tenait Grignan 1690. C'était un grand week-end de reconstitution historique où il était possible de vivre des combats de cette époque-là, mais aussi la vie quotidienne de Madame de Sévigné et de sa fille à Grignan, par exemple. Il n'est pas trop tard, les événements se poursuivent, notamment les 3 et 4 octobre avec le week-end de clôture de cette année de Sévigné, qui s'appelle Plume et Punchline. Plume et Punchline, c'est autour des mots et des lettres, un concours d'éloquence et des improvisations de slam. Je vous invite à découvrir le programme complet sur le site du département de la Drôme, du château de Grignan, pour en savoir plus. Et pour mieux comprendre les réalités de cette période et les recherches menées autour de ces vestiges qui peuplent nos départements, je vous propose d'écouter une interview enregistrée avec Émilie Comès Trinidad, archéologue médiéviste et moderniste au service d'archéologie du département de l'Ardèche. Elle est aussi chargée de programmation événementielle à Muséal. Et voici ce qu'elle nous explique, ce qu'elle m'a expliqué pour le micro de Radio Saint-Ferréol. Re-salue Émilie, je te remercie d'être là et juste pour te présenter, toi tu es docteur en histoire, archéologue médiéviste et moderniste et chargé de programmation à Muséal, le musée d'Alba la Romaine. Est-ce que tu pourrais juste nous présenter ton parcours en quelques mots?
Oui, bonjour Enzo, effectivement je suis archéologue, donc j'ai fait un master d'archéologie à Lyon 2 et une thèse d'archéologie à Nice, Côte d'Azur.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui te pousse à faire de l'archéologie plutôt médiéviste, moderniste, plutôt que sur une autre époque ?
Au début, je t'avoue que tout au début de où j'ai découvert l'archéologie quand j'étais en CP, donc il y a fort longtemps, 30 ans, je voulais faire préhistorienne parce que D'accord. Je suis née à côté, pas très loin de la grotte de Totavel, puis ensuite par le fait de pérégrination, de visites, de vacances, j'ai découvert plutôt le patrimoine castral, les châteaux, du coup dans la région, dans le Languedoc qu'on appelle à tort, sur le signal, château Qatar. Okay. Et donc, c'est le Moyen-Âge cet aspect-là du Moyen-Âge qui m'a, au début, le plus intéressé.
Et on remarque quand même une différence entre les différents types d'archéologie. C'est une petite guéguerre qu'on retrouve entre l'archéologie de l'Antiquité. On entend beaucoup parler, on sait dans tous les esprits. C'est quoi la différence vraiment entre l'archéologie antique, l'archéologie médiévale et les autres périodes?
Oh, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de guéguerre, c'est plutôt des petites piques qu'on se lance comme ça gentiment entre archéologues, mais là, il est vrai que l'Antiquité a une assise très forte, en fait, dans la représentation au sein de la population, de la culture populaire, parce que l'Empire romain, en fait, a énormément marqué les esprits, a fait après l'objet d'une culture populaire très forte, alors que le Moyen-Âge a eu mauvaise presse dès le XVIIIe siècle. Ça remonte, et on a toujours pensé que c'était des temps obscurs entre la fabuleuse Antiquité et la merveilleuse Renaissance de l'Antiquité. Alors, on pensait que c'était des temps un peu à pas laisser de côté, mais un temps de déclin. Et donc, c'est pour ça qu'on, nous autres médiévistes, nous employons à essayer de redorer l'image du Moyen-Âge qui porte en elle, en fait, la période du Moyen-Âge porte en elle les ferments de la société actuelle, de la culture judéo-chrétienne actuelle, et la culture, d'Europe, d'Europe occidentale actuelle, elle est vraiment nourrie à la fois de l'Antiquité et à la fois du Moyen-Âge.
Je vois. Donc toi, c'est ton travail au quotidien, c'est de faire de la prospection, faire des fouilles. C'est ton travail en tant qu'archéologue dans un service départemental d'archéologie. C'est quoi ton quotidien en quelques mots?
Notre quotidien, on est trois, donc il y a ma collègue antiquisante et mon collègue, donc Audrey Saison et mon collègue préhistorien Nicolas Latteur. En fait, notre quotidien, il est très variable d'une semaine à l'autre, c'est ce qui est très agréable. On va partager nos semaines entre du terrain, on peut faire des diagnostics par exemple qui sont demandés par l'État avant qu'il y ait c'est une phase préalable en fait de fouille de moindre envergure qui permet de voir un petit peu ce qu'il y a sous terre dans le cadre de projets d'aménagement et qui peuvent donner lieu ensuite à des fouilles de plus grande envergure. On peut avoir aussi du suivi de travaux quand il y a par exemple des restaurations sur un château. Voilà, j'interviens, je travaille en concertation avec les maçons pour essayer d'enregistrer l'information ou voire de fouiller au fur et à mesure des restaurations. Et puis après, il y a la phase un peu moins fun de bureau, où là, en fait, on est obligé de compiler, d'analyser les données, de rendre des rapports.
Je vois. Si on bascule sur la période moderne, parce que tu as aussi la casquette d'archéologue moderniste, là, qu'est-ce qui change par rapport à la période précédente? Qu'est-ce qu'on découvre de nouveau à cette période-là?
Sur la période moderne, on va avoir la problématique de l'abandon des châteaux parce que on a certains châteaux qui comment dire qui la majorité des châteaux en fait même de l'Ardèche tout court sont abandonnés au maximum au XVIIe siècle. Donc on a toute cette dominante là des châteaux qui se transforment ou pas pendant la période moderne. Il y en a très peu en fait. Spoiler alerte. Dans la vallée de l'Eyrieux, il y a un seul château qui vraiment est adapté à la période moderne, donc aux armes à feu, aux
Ouais.
canons, etc., c'est le château du Chélard.
D'accord.
Les autres sont bricolés, voire on laisse tomber complètement, en fait, le château. Et puis après, on a en fait, tous ces bourgs ou ces maisons qui vont évoluer en fonction des styles de la période moderne, parce que à ce qu'on appelle dans le langage courant, la Renaissance va amener avec elle, en fait, alors un petit peu en décalé selon les zones, hein, mais des styles de fenêtres, notamment, ou de portes qui sont différents. On va avoir des
D'accord.
superbes cheminées, des choses comme ça, et on le voit très bien, en fait, dans l'habitat, la période moderne, elle se caractérise par une recherche à la fois de style, d'élégance et de confort. Et durant la période moderne aussi, entre la fin du Moyen-Âge et le début de la période moderne, c'est l'éclosion, littéralement, des maisons fortes, qui ne sont pas des châteaux, qui sont vulgairement appelés châteaux, mais qui sont en fait des demeures aristocratiques, voire ensuite bourgeoises. Et là, on a aussi, pareil, toute une architecture qui se développe à ce moment-là.
Et j'imagine que c'est aussi une période qui est assez marquée par les histoires religieuses. Est-ce que ça se transmet aussi dans l'archéologie?
Et bien, dans l'archéologie, oui, il y a comment dire, on va avoir certaines maisons qui portent des signes en fait d'occupants protestants, voilà, notamment j'en avais étudié sur la région de Gluras, sur le village de Gluras, donc pas très loin du Chélard, entre le Chélard et Saint-Sauveur. Et puis là plus récemment, donc j'ai participé à une opération qui a été menée par Fanny Lalande, qui elle fait son doctorat sur l'emprisonnement pour religion à l'époque moderne, et on a travaillé ensemble au château de Beauregard. Un château 100% moderne. Et là, en décroutant une partie des murs, on a pu découvrir les graffitis qui avaient été laissés par les protestants lorsqu'ils étaient enfermés dans ce château. C'est le cas aussi à la Voulte. Il y a également des graffitis protestants. Donc, il y a toute une histoire cachée que l'archéologie parvient en fait à révéler. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de fouiller sur un site de temple. Ça viendra peut-être un jour, mais voilà, qui sait. Il y a aussi cette composante-là, les temples, qui ont été construits, détruits, reconstruits. Voilà, il y a une histoire qui a à faire vraiment au niveau archéologique. Au niveau historique,
D'accord.
c'est mieux connu, mais il y a pas mal de choses à faire au niveau archéologique.
Ok, super. Sur la question de l'habitat, c'est les mêmes dynamiques à l'époque moderne qu'à l'époque médiévale? Il est dispersé ou il se regroupe? Comment ça fonctionne?
Non, en tout cas, dans la vallée de l'Eyrieux, et même en Ardèche, hein, et on va dire même sur le Lyonnais, c'est des choses qui se retrouvent entre la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne. On a des phases de crise, en fait, très importantes, et des crises climatiques, rien à voir avec le changement climatique aujourd'hui, mais c'est une histoire beaucoup trop longue
Oui.
pour que je m'épanche dessus. Donc, en fait, il y a des périodes de gel, de froid humide, de la pluie, des chaleurs extrêmes, et donc il y a une crise agricole, agraire, qui se déclenche. S'ajoute à cela, enfin, concomitant et puis même conséquent à cela, il y a aussi des crises, des crises paysannes parce qu'il y a une très forte ponction de l'impôt. On va avoir donc des crises également démographiques et puis des crises religieuses. Donc en fait, tout ça s'entretient. Tout ça est la cause et la conséquence l'un de l'autre. Et donc, l'habitat a tendance, selon les périodes, à se rétracter. On va avoir des abandons de certains hameaux qui sont complètement abandonnés parce que, en fait, il n'y a plus d'habitants, simplement. Soit ils sont morts ou ils ont déserté. On va avoir l'abandon des châteaux. Donc, il y a aussi tout un habitat castral qui disparaît petit à petit. Les territoires vont se recomposer à la période moderne, à l'image de la société. La société à cette époque-là, elle se recompose avec les crises. On va avoir une noblesse qui est un peu en perte de vitesse, en fait, qui commence à être plus ou moins ruinée. Et à côté de cela, on a une élite rurale qui monte, qui monte, qui monte, à la recherche de titres, parce que ce sont des ce qu'on va appeler c'est les futurs bourgeois, en fait. Et ils sont à la recherche de titres parce qu'ils veulent monter dans la société. Et la seule manière de monter dans la hiérarchie féodale, qui a encore cours à cette époque-là, c'est d'avoir des titres. Donc on rachète comme ça des châteaux qui sont en vente, hein, simplement, hein. Les nobles, les seigneurs vendent les châteaux, même, parce qu'ils s'en occupent plus. Et on rachète des titres, on devient seigneur de quelque chose, comte, duc, etc. Et on monte, on monte, on monte, voilà, jusqu'à le Graal suprême étant la cour de Versailles.
Bien sûr. Je te pose la question rapidement. Du coup, comment on lit le patrimoine moderne? C'est pareil, ça s'intègre aux constructions actuelles, ça se retrouve dans des caves. Comment on l'observe, ce patrimoine-là?
Oui, c'est ça. Globalement, on l'a sur des maisons. Quand on observe dans les villages, on passe, on lève les yeux, on voit en fait, hein, ces fenêtres à croisées, ces choses comme ça. Dans les caves, on en a aussi à Annonay, par exemple. Là, j'étais il n'y a pas longtemps. On a une cave fin médiévale, début moderne. Donc là, la période moderne est presque même mieux représentée. Et puis sur l'extrême fin de la période moderne, eh bien, on a toutes les églises de la contre-réforme.
Oui,
Il y en a énormément. Les églises
d'accord.
18e, entre 19e et 20e, surtout 18e, là, il y a une grosse phase de construction d'église 18e, début 19e, et ça, c'est la contre-réforme. Ça, on le
Ok.
voit parfaitement. Ça se lit
C'est encore
extrêmement.
visible. Ouais.
Ah
Du coup, j'en
oui, elles
profite pour te
sont.
reposer la même question que pour l'époque médiévale. Si tu avais une sélection de sites à découvrir aujourd'hui, à voir de cette époque-là qui sont bien valorisés, que tu aimerais mettre en lumière?
Pour l'époque moderne, c'est une très bonne question. Rapidement, je t'aurais bien dit château de Beauregard, mais pour l'instant il n'est pas accessible à la visite
Oui.
parce voilà, il va être remis en valeur. Après, grosso modo, toutes les maisons fortes qu'on voit qui jalonnent la vallée de l'Eyrieux sont intéressantes à voir. Et après, il y a des phases modernes dans les châteaux qui vont être plus dans le sud de l'Ardèche. À Boulogne
D'accord.
notamment, il y a une phase moderne. Après, c'est plus dans la. Il faut aller plus dans la Drôme. Le
Oui.
château, par exemple, de la Madame de Sévigné.
Oui.
Voilà,
Bien
clairement, ça,
sûr.
c'est un château moderne. Voilà. Là, il faut plus
Oui, tout
aller
à fait.
plus dans ce côté-là de la Drôme, en Ardèche, mais on a des exemples moins développés.
Ok. Bon. Peut-être qu'un jour, et petit à petit, ça sortira de terre,
C'est
ce genre
ça.
de projet.
C'est ça. Mais là, je rends à la Drôme ce qui est à la Drôme, pour le coup. Il
On en
y a de
reparlera
très
dans
beaux
l'émission de
châteaux,
toute façon, oui. C'est
de très
sûr.
beaux châteaux modernes dans la Drôme.
Ok, super. Bah, merci beaucoup, Émilie, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à toi, Enzo, avec grand plaisir.
Patrimoinez-vous.
Et je souhaite encore remercier très chaleureusement Émilie Comas-Trinidad pour cet éclairage passionnant sur l'architecture.